Radio Prague, les informations.
La police a identifié deux responsables principaux de l'affaire de l'alcool frelaté. L'alcool frelaté fait une 25e victime en République tchèque. Le président Václav Klaus oppose son veto à la réforme des retraites. Deux hommes ont été mis en examen en Moravie du Nord en relation avec l'affaire de l'alcool frelaté. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé l'alcool coupé au méthanol et d'avoir livré ce mélange meurtrier à un distributeur d'alcool de la ville de Zlín. Celui-ci a mélangé l'alcool frelaté avec de l'éthanol et l'a livré sur le marché. L'information a été donnée à la presse par le représentant du ministère d'État, Roman Kafka. Selon ce dernier, les deux hommes supposaient que l'alcool frelaté serait neutralisé et ne serait plus dangereux pour la santé des consommateurs. Les deux hommes risquent des peines allant de 12 à 20 ans, éventuellement la perpétuité. La police aurait obtenu les aveux complets d'un des auteurs de cet acte criminel. Selon le directeur de la police tchèque, Milan Červíček, jusqu'à 15 000 litres d'alcool frelaté ont été mis sur le marché en République tchèque. Il ne sera pas facile pour la police de les récupérer. Un homme de 55 ans est décédé ce lundi à l'hôpital de Havířov des suites de l'intoxication au méthanol. Il a été hospitalisé depuis le 3 septembre dans un état très grave. Ce décès porte à 25 le nombre total de victimes de l'alcool frelaté dans le pays. Ce lundi, le ministre de la Santé, Leo Heger, a toutefois déclaré que la vague d'intoxication sans précédent en République tchèque était en train de reculer étant donné la baisse du nombre de personnes hospitalisées ces derniers jours. Le président de la République, Václav Klaus, a opposé son veto à la réforme des pensions et retraites. La législation qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine consiste en une privatisation partielle du système de retraite avec l'introduction d'un second pilier s'ajoutant au système par répartition. Les Tchèques pourront ainsi transférer leur argent vers des fonds de pension privés. Critiquée tant par l'opposition de gauche que par les syndicats, la réforme a été rejetée au Sénat et ensuite adoptée une seconde fois par la Chambre des députés. Selon le président Klaus, il n'existe pas de consensus au sujet de la réforme entre les experts, les partis politiques et les citoyens. Conférences, débats, manifestations culturelles et religieuses auront lieu tout au long de cette semaine à Prague dans le cadre des célébrations de la fête nationale de la Saint-Venceslas le 28 septembre. Placées sous le haut patronage du président de la République, ces célébrations mettent à l'honneur les Tchèques vivant à l'étranger. En l'occurrence, mardi, quelques-unes des personnalités féminines de la communauté tchèque à l'étranger seront récompensées au Sénat. Les célébrations culmineront vendredi prochain au Théâtre national de Prague. Le nombre de ressortissants tchèques vivant hors de leur pays d'origine est estimé à 2 millions. C'est l'historienne de l'art Magdalena Juříčková qui est la candidate principale à la direction de la galerie de la ville de Prague, institution qui réunit plusieurs salles d'exposition dans la capitale tchèque. Sa candidature a été appuyée ce lundi par une commission de spécialistes. Le projet de la commission doit être encore approuvé par le conseil municipal de Prague. La nouvelle directrice devrait entrer en fonction en novembre prochain. Selon le membre du conseil municipal Jiří Liška, Magdalena Juříčková a présenté la conception la plus complète des activités de la galerie municipale en tenant compte aussi de l'aspect économique de ses activités. Météo. Lundi, jour de la fête de tous les Jaromir, le ciel est partagé entre soleil et nuages qui sont plus présents dans la partie sud de la République tchèque. Les températures maximales ont oscillé dans la journée entre 17 à 21 degrés. Mardi, le ciel en République tchèque sera dégagé. Les températures maximales se situeront entre 19 et 23 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité de Radio Prague. L'éventuelle prolongation de l'allocation des avions de chasse suédois Yas 39 Gripen a été discutée vendredi dernier à Ostrava par le ministre tchèque de la Défense, Alexander Vondra, et son homologue suédoise, Karin Enström. Très critiqué en raison du montant surévalué de l'allocation des chasseurs suédois, le contrat actuel expirera fin 2014. Nous vous en dirons plus dans cette émission. Rencontre ensuite avec Carole Gadet, qui a lancé lancé en France des ateliers intergénérationnels. Elle va présenter au micro de Radio Prague ce concept qui permet aux jeunes et aux seniors de mieux vivre ensemble. Dans notre rubrique sportive, il sera question de football. Retour aujourd'hui sur le match de la Ligue Europa qui a opposé la semaine dernière l'Olympique Lyonnais et le Sparta Prague. La République tchèque ne souhaite pas renouveler le contrat de location des avions de chasse Gripen aux conditions actuelles proposées par la Suède. Si les négociations devaient ne pas aboutir, Prague envisage même de lancer un appel d'offres pour l'achat de nouveaux avions de chasse. Anna Kubišta.
C'est en 1997 que le gouvernement tchèque, à l'époque dirigé par Václav Klaus, décide de renouveler la flotte aérienne soviétique composée de MiG-21, alors utilisée par l'armée tchèque, par de nouveaux avions de chasse plus modernes. Alors que l'option de l'achat est privilégiée pendant les quelques années qui suivent, c'est finalement la location d'anciens modèles d'avions de chasse suédois Gripen qui finit par prévaloir. Le contrat pour 14 Gripen est signé en 2005 pour une durée de 10 ans et pour une somme de près de 20 milliards de couronnes. Le contrat arrivant à échéance en 2015, le gouvernement tchèque est actuellement dans une phase de négociation avec la Suède, des négociations pour le moins difficiles, puisque les conditions de prolongation proposées par les Scandinaves ne seraient pas satisfaisantes. Vendredi soir, en marge des journées de l'OTAN qui se déroulaient à Ostrava ce week-end, en Moravie-Silésie, le ministre de la Défense, Alexander Vondra, s'est entretenu avec son homologue suédoise, Karin Enström, un entretien qui, pour l'heure, n'a rien donné de concret. Alexander Vondra.
Nous avons discuté pendant environ une heure avec la ministre de la Défense. Je lui ai expliqué en détail les raisons pour lesquelles la dernière proposition faite par la Suède ne convient pas au gouvernement tchèque.
La République tchèque ne considère pas pour l'instant acceptables les conditions financières de la location des appareils proposés par la Suède. Alexander Vondra a donc proposé deux variantes envisageables pour sortir de l'impasse.
Soit nous continuons à négocier afin de trouver une solution qui convienne aux deux parties, ou bien nous prolongerons le contrat de 2-3 ans et nous préparerons dans le même temps un appel d'offres. À la fin de la réunion, nous sommes tombés d'accord sur le fait que les négociations devaient se poursuivre. Nous avons encore le temps d'ici fin novembre.
L'équipe de négociateurs a été remaniée par le ministre tchèque de la Défense et les négociations devraient reprendre dès la semaine prochaine. Tandis que la République tchèque envisage sérieusement la possibilité d'un contrat court, la Suède a proposé une baisse du prix de location, mais pour un contrat de 10 ans. Selon le quotidien Pravo, les Suédois souhaiteraient louer leurs appareils pour 500 millions de couronnes par an, au lieu des 2 milliards de couronnes du contrat actuellement en vigueur. Mais côté tchèque, on rappelle que les négociations ne concernent pas seulement le prix de location, la somme totale correspond en effet également aux frais d'entretien, à la formation des pilotes et à toute la logistique liée aux 14 Gripen. Alexander Vondra.
Nous voulons conserver les capacités de notre flotte supersonique. Nous ne voulons pas y renoncer. Mais d'un autre côté, il faut prendre en compte les possibilités financières de l'État et du ministère de la Défense. Celles-ci ne sont pas illimitées. Et c'est l'aspect financier qui fera la décision au final. Je n'accepterai aucun accord qui ne soit pas avantageux pour la République tchèque.
Les négociations risquent toutefois d'être entachées par de nouvelles révélations autour du premier contrat entre la Suède et la République tchèque. En effet, depuis plusieurs années, des soupçons de corruption planent sur ce contrat militaire. Un magazine autrichien, Profil, a en effet révélé dans sa dernière édition que le consortium d'armement international BAE System aurait distribué des pots de vin à des décideurs en charge des contrats d'armement par l'intermédiaire de certains conseillers. Dans le cas d'un achat d'avions de chasse, des centaines de millions de couronnes devaient arroser la République tchèque, la Hongrie et l'Autriche qui cherchaient également à s'équiper. Finalement, la République tchèque comme la Hongrie avaient opté pour la solution de louer leurs avions supersoniques.
Comment rapprocher la jeune génération avec les personnes âgées? Une question récurrente et presque vitale dans le contexte du vieillissement inéluctable de la population de la planète. Depuis 10 ans, l'association Ensemble Demain développe, en partenariat avec le ministère français de l'Éducation nationale, un projet intergénérationnel qui favorise un mélange enrichissant des cultures, du passé et du présent, qui donne tant aux jeunes qu'aux seniors une véritable leçon de vie. Carole Gadet, chargée des projets intergénérationnels au ministre français, responsable de l'association Ensemble Demain, a récemment présenté ce concept à Prague. C'est elle qui avait initié les premières rencontres de ce genre en France en tant qu'enseignante dans ses classes de ZEP. Elle explique.
L'idée, c'est que sur le temps scolaire, nous organisons donc des ateliers pédagogiques intergénérationnels qui permettent aux jeunes de 2 ans jusqu'à 16 ans, voire aussi des étudiants, donc de travailler avec des personnes retraitées, donc des retraités soit actifs qui ont 60, 65, ou des retraités qui sont dépendants, donc en maison de retraite médicalisée, dans les centres Alzheimer, etc. Donc nous avons établi tout un programme d'ateliers intergénérationnels qui dépend des programmes scolaires où, au cours desquels donc, les enfants et les personnes âgées vont participer donc, à toute une programmation annuelle. Ils vont travailler autour de la lecture, autour du conte, autour de l'histoire et du patrimoine, autour des sciences, autour de la danse d'hier, danse d'aujourd'hui, donc tout ce qui est physique aussi, les activités physiques comme la gymnastique douce, le yoga, la danse d'hier, danse d'aujourd'hui, tout ce qui est art musical aussi, donc autour des chansons d'hier, chansons d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment un partage des savoirs pour un mieux vivre ensemble demain, c'est-à-dire que les générations apprennent à mieux vivre ensemble et justement à travailler ensemble, parce que les jeunes ont beaucoup à apprendre des seniors et les seniors ont beaucoup à apprendre aussi des jeunes.
Justement, pourquoi est-il aussi important de faire travailler les jeunes avec les seniors, des jeunes qui ont, on suppose, leurs grands-parents, donc ils sont a priori en contact avec les personnes âgées?
Alors, le problème dans notre société, c'est que on a de plus en plus de familles recomposées, des familles éclatées aussi, donc beaucoup de divorces, beaucoup aussi donc d'enfants qui ne voient pas leurs grands-parents, qui voient peu leurs parents aussi, et donc du coup la structure familiale est très éclatée. Et on s'est aperçu effectivement que les enfants avaient peu effectivement la possibilité d'avoir des activités, de partager des activités avec leurs grands-parents. Et le fait de recréer un lien intergénérationnel, ça permet effectivement aux jeunes qui ne connaissent pas trop leurs racines, qui ne connaissent pas leur passé, d'être en relation avec des personnes âgées pour effectivement apprendre à construire leur identité. Et grâce à ce lien intergénérationnel, les élèves vont apprendre des anciens, des valeurs disparues. Des valeurs qu'on n'apprend plus aujourd'hui dans notre société parce qu'on est dans une société de consommation qui va très vite et la priorité n'est plus celle justement de la transmission de valeurs par exemple. Et du coup, c'est vraiment un projet civique, d'engagement civique, au cours duquel les enfants vont travailler sur le respect, sur la tolérance, sur le handicap. Donc il y a tout un travail de fond qui est travaillé donc en classe sur justement ces rencontres intergénérationnelles. Et au-delà, les seniors vont aussi apprendre à accepter les jeunes et à les découvrir et à comprendre aussi leur culture. Et du coup, ça permet aux jeunes et aux moins jeunes d'être valorisés et de retrouver quelque part un statut et de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et c'est un projet en fait qui est développé sur toute la France, voire sur l'international, parce qu'on a présenté le projet en Belgique, en Suisse, au Québec, on va le présenter aussi en Norvège, etc.
Ce genre de projet n'avait pas existé?
Non, en fait, c'est vrai que la problématique du vieillissement de la population est une problématique qui touche effectivement l'international. Et donc, il y a vraiment une demande internationale d'un travail justement sur la thématique du mieux vivre ensemble et du rapprochement des générations. Et là, donc, l'idée, effectivement, ça serait d'organiser des formations peut-être en République tchèque pour sensibiliser un petit peu le public sur la thématique de l'intergénération à travers déjà les expériences qui existent ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets ne s'improvisent pas. Il faut vraiment qu'il y ait une formation du public enseignant et du public retraité pour qu'il y ait un vrai programme commun pour avancer ensemble et que ça ne soit pas juste une petite activité sur l'année. Et puis voilà, au revoir.
Voilà, on se rencontre et qu'est-ce qu'on pourrait faire cet après-midi.
Voilà, et l'idée, c'est vraiment construit pédagogiquement sur l'année et c'est pour ça que ça fonctionne et qu'il y a une demande. Et l'idée, c'est que les enseignants, l'année suivante, recommencent. C'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est la durée.
C'était Carole Gadet au micro de Radio Prague. On passe au sport. Les deux clubs tchèques encore en lice en Coupe d'Europe de football. Cette saison, on fait leur entrée en matière jeudi dernier dans la phase de poule de la Ligue Europa. Tandis que le Viktoria Plzeň a disposé chez lui des Portugais de l'Académica de Coimbra, 3-1. Le Sparta Prague a lui été défait à Lyon, 1-2. Ce match sur les bords du Rhône, chez l'ancien septuple champion de France, était suivi par notre envoyé spécial Guillaume Narquet.
Sport en République tchèque.
Une heure, c'est le temps qu'il a fallu à l'Olympique lyonnais pour prendre la mesure du Sparta. Après avoir vendangé au moins 5 occasions franches en première puis en début de seconde mi-temps, Bafétimbi Gomis a finalement trouvé le chemin défilé à la 59e minute. À la réception d'un corner, l'attaquant international français a placé un coup de tête imparable pour l'irréprochable et excellent gardien tchèque Tomáš Vaclík. L'enceinte lyonnaise pouvait alors exploser une première fois, puis une deuxième, pratiquement dans la foulée. 3 minutes à peine plus tard, c'est en effet l'inévitable Lisandro Lopez qui était à la conclusion pour tromper de nouveau le portier pragois et ainsi offrir une avance plus confortable aux siens au tableau d'affichage. À 2-0 après 62 minutes et avec un Sparta qui ne s'était jusque-là pas créé la moindre véritable occasion franche, l'affaire semblait donc pliée. Le souvenir de la déroute 5-0 subie 8 ans plus tôt sur les mêmes lieux, un soir de Ligue des Champions, revenait même alors probablement dans certaines têtes pragoises. Mais au lieu de couler pour de bon, ces Pragois justement ne baissaient pas tête, refusant d'abdiquer, profitant de l'apathie d'une équipe lyonnaise visiblement déjà rassasiée par ses 2 buts d'avance. Ladislav Krajčí redonnait de l'espoir à son équipe peu après sa montée au jeu. Au bout d'une séquence rondement menée, le gaucher révélation du championnat tchèque la saison dernière réduisait le score à la 77e minute. Beaucoup plus actif, dans un dernier quart d'heure où il n'avait plus rien à perdre, le Sparta était même tout près d'arracher l'égalisation en toute fin de match. Toutefois, un tel scénario n'aurait assurément pas constitué une fin logique, car sur l'ensemble des 90 minutes, c'est bien l'OL qui méritait de s'imposer, comme le pensait lui aussi son entraîneur, Rémi Garde.
Une victoire méritée, je pense, logique sur l'ensemble du match. C'est vrai qu'on a souffert sur les 10 dernières minutes, parce qu'on n'a pas su se mettre encore plus à l'abri que les 2 buts d'avance qu'on avait mis. Il y a eu de nombreuses occasions qu'on n'a pas concrétisées, mais sur l'ensemble du match, je pense que c'est mérité. Donc l'entrée en matière est satisfaisante.
Avec beaucoup d'intensité, d'occasion aussi.
Oui, j'ai beaucoup aimé mon équipe, parce que je pense qu'avec un brin de réussite et de réalisme en plus, on aurait été largement à l'abri rapidement. Et j'ai vu une équipe de Lyon capable de mettre de l'intensité, d'avoir la main mise sur le jeu, de répondre aussi au combat athlétique, parfois limite, de cette équipe. Donc c'était un vrai bon match de Coupe d'Europe et un vrai bon match de la part de mon équipe.
Justement, l'Europa League, ça reste l'Europe, hein, on l'a vu dans l'implication des joueurs adverses. On les pensait plus faibles et finalement, ils ont répondu présents.
Oui, non, on savait que cette équipe était bien organisée, qu'elle allait jouer le contre et qu'elle était regroupée autour de sa surface. Je ne savais pas à quel point le débat athlétique serait situé ce soir. On a vite eu la réponse en début du match. Mais on a su répondre et on a su répondre dans le jeu, par le jeu. Je pense que c'est surtout la satisfaction ce soir.
Tout en reconnaissant à l'unanimité la qualité du jeu et des individualités lyonnaises, le sentiment de satisfaction n'était bien entendu pas le même dans le camp tchèque au coup de sifflet final. Au vu de la physionomie des 20 dernières minutes de la rencontre, le Sparta a repris la route de Prague avec quelques regrets à l'image de son attaquant camerounais Leonard Quick.
Je pense qu'on s'est pas mal battu. On était face à une équipe habituelle des compétitions européennes. pu sauver les dernières minutes du jeu. On a vu qu'on pouvait donner mieux, mais ce qui n'est pas arrivé. Et on a perdu le match. On va continuer à travailler pour pouvoir avoir la première victoire.
On a l'impression que vous n'avez pas su comment vous organiser pour répondre aux attaques, à la pression exercée par l'équipe lyonnaise en début de deuxième mi-temps.
Ouais, on a manqué de concentration. Ce qui n'est pas bien dans les compétitions européennes. Et voilà, on a pris des buts en quelques minutes.
Le principal regret que peuvent formuler les Pragois est toutefois celui d'avoir réagi et commencé à jouer trop tard lorsqu'ils étaient déjà menés de 2 buts. Avant cela, le 11 mis en place par l'entraîneur Vítězslav Lavička s'était essentiellement contenté de rester bien en place défensivement en essayant vainement de placer quelques contre-attaques. Notamment en première mi-temps, cette organisation du Sparta, bien aidée, il est vrai, par la maladresse et le manque de réussite de Bafétimbi Gomis, a posé un certain nombre de problèmes à son adversaire. Du coup, à la sortie des douches, les Lyonnais ne faisaient pas la fine bouche sur cette victoire acquise dans la douleur et peut-être plus difficilement que prévu, comme l'admettait l'attaquant Alexandre Lacazette.
Oui, le principal, c'est la victoire, comme j'ai pu dire avant, c'est la première victoire à domicile. On veut tout gagner dans cette phase de poule, donc on débute bien.
L'atmosphère, c'était pas la Ligue des Champions, mais il y avait une atmosphère européenne.
Oui, on a eu tout le public avec nous, on les a bien sentis durant toute la partie. Donc c'était le 12e homme ce soir, ils nous ont bien aidés. Donc on espère que ce sera pareil pour le reste de la saison.
Même si le stade Gerland n'affichait pas complet, le public lyonnais, avec près de 30 000 spectateurs, avait répondu présent pour le départ de cette nouvelle aventure en Ligue Europa, une compétition que le club du président Ola, après de nombreuses participations à la bien plus prestigieuse Ligue des Champions, affirme ne pas vouloir prendre par-dessus la jambe, un reproche souvent adressé aux autres équipes françaises ces dernières saisons. Mais avant de trouver la faille, en seconde période, conséquence logique et méritée d'une entame pied au plancher, les joueurs rodaniens ont buté pendant une heure sur une défense du Sparta bien regroupée dans son camp. Alexandre Lacazette explique pourquoi lui et ses partenaires ont eu tant de peine à mettre le bloc tchèque hors de position en première mi-temps.
Parce qu'ils étaient très costauds, ce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer en Ligue 1 et qui, je pense, défendaient bien. Mais on savait qu'à un moment ou un autre, on allait avoir l'occasion de marquer des buts.
Comment vous avez abordé ce match justement? Parce qu'on a senti justement très prudent quand même sur la première mi-temps.
Ah bah non, prudent oui, parce qu'on ne les connaissait pas vraiment cette équipe, mais on sait de quoi on est capable, on connaît nos qualités et ce soir on a joué avec nos qualités.
C'était important de bien démarrer, je suppose.
Oui, bah c'est toujours bien de démarrer une compétition par une victoire, donc pour nous c'est 3 bons points et en plus à domicile on va faire carton plein.
La grande figure du match, en bien comme en moins bien, a donc été Bafétimbi Gomis. Longtemps malheureux devant le but du Sparta, l'avant-centre lyonnais a néanmoins été récompensé de sa persévérance et son but libérateur a ouvert la voie du succès à son équipe. Et si son entraîneur s'est plaint, un peu curieusement, de l'engagement physique, parfois limite, selon lui, des joueurs du Sparta, qui n'ont pourtant récolté qu'un seul carton jaune contre 3 pour les Lyonnais, ce n'était pas le cas de Gomis, qui au micro de Radio Prague a d'abord voulu saluer la performance des jeunes Pragois, dont pas moins de 7 des 11 joueurs alignés au coup d'envoi avaient moins de 23 ans.
C'est vrai que c'est une équipe un peu agressive, dans le bon sens du terme. Je ne pense pas que ce soit méchant, mais bon, c'est comme ça, c'est la Coupe d'Europe et ils ne voulaient pas se laisser faire. Mais après, je pense que c'est aussi une belle équipe de ballon qui a bien joué, qui a provoqué. J'ai bien aimé leur système de jeu qui cherchait toujours à relancer. Donc, je pense pas que ce soit une équipe qui compte. C'est vrai qu'elle est agressive, mais elle a aussi d'autres qualités.
Vous avez su faire la différence dès l'entame de la deuxième mi-temps avec ces 2 buts à l'heure de jeu. Quelles étaient les consignes à la mi-temps pour faire bouger cette équipe tchèque bien en place?
D'être patient, parce qu'en première période, par mon intermédiaire, on a eu pas mal de situations qu'on n'a pas su marquer, ce but qui nous aurait libérés. Mais bon, c'est comme ça, on a su être patient, on a marqué à l'heure de jeu, et c'est bien. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout ces 3 points.
Par contre, après la réduction du score tchèque, vous avez un peu souffert sur la fin. Qu'est-ce qui vous a manqué pour mieux maîtriser cette fin de match?
Écoutez, on a attendu, on les a laissés sortir, on voulait les contrer. Bah, ils ont réduit le score. Bah, c'est bien pour eux, mais bon, on a su garder cet avantage qui nous donne les 3 points. C'est ce qu'il faut retenir.
Dernière chose par rapport à ce que vous saviez de cette équipe tchèque avant le match. Est-ce qu'elle vous a surpris?
Non, on a vu que c'était une belle équipe qui avait éliminé Feyenoord, qui avait des belles individualités. J'ai bien aimé l'attaquant de couleur Kuke, qui est un bon point de fixation. Le 14 aussi, qui est, je pense qu'il y a un grand espoir tchèque. En plus, ils ont pas mal de jeunes dans cette équipe qui ont du ballon. Je suis content de voir le football tchèque pour avoir joué avec Marek Heinz et être entraîné par Ivan Hasek, qui ont été deux Tchèques avec qui j'ai eu une belle relation. Je suis content que le football tchèque montre que c'est un bon football et qu'ils ont de l'avenir.
Après sa défaite initiale à Lyon, le Sparta poursuivra désormais son parcours en Ligue Europa le 4 octobre avec une affiche de gala puisque les Pragois accueilleront l'Athletic Bilbao, finaliste de la dernière édition. Cette deuxième journée de la phase de poule sera d'ailleurs particulièrement intéressante pour les clubs tchèques puisque le Viktoria Plzeň se rendra lui à Madrid pour y affronter l'Atlético, vainqueur précisément de la Ligue Europa la saison dernière, aux dépens donc des Basques de Bilbao et plus récemment de la Supercoupe d'Europe.
C'est par ce reportage de Guillaume Narguet que s'achève le programme de Radio Prague en français. Il vous a été présenté aujourd'hui par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention. À très bientôt sur Radio Prague. Au revoir.